On va commencer avec la première conférence avec l'association Bretagne Endométriose, avec Solène.
Bonjour à toutes et tous. Je ne suis pas sûre d'avoir vu tout le monde ce matin. Alors merci d'être présent aujourd'hui. Merci aussi à la ville de Brest d'avoir organisé ce séminaire et de nous avoir conviés. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, ce qui est fort probable, je suis Solène Géhanin, je suis la fondatrice et présidente de l'association Bretagne Endométriose, donc structure associative qui a vu le jour en novembre 2022. Nous sommes basés sur Dirinon, puisque c'est là que je vis. Voilà, on est une toute jeune structure, nous sommes deux membres pour le moment et on tend à évoluer et à mettre en place des choses. Donc moi aujourd'hui, je suis venue vous parler de l'endométriose et de l'adénomyose. Avant de vous parler de mon parcours en tant que brestoise qui continue à évoluer tant personnellement que médicalement sur la commune, je voulais déjà dans un premier lieu vous définir ce qu'est la maladie. Même si on en parle de plus en plus aujourd'hui, je pense qu'il était important de recontextualiser les choses. Ah, donc je vais commencer par vous assommer un petit peu après avoir mangé, par une définition générale donc, qui nous est proposée par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. L'endométriose est une maladie caractérisée par la présence de tissus semblables à de l'endomètre en dehors de l'utérus. L'endomètre, c'est ce qui habituellement tapisse en fait l'intérieur de l'utérus et qui vient se désagréger lorsque l'on a nos règles. Aujourd'hui, les causes de la maladie restent inconnues. Malgré tout, la pathologie touche une à deux personnes menstruées sur 10. Et selon l'OMS toujours, il y a 190 millions de personnes qui seraient concernées dans le monde. Voilà, c'est pour un petit peu vous donner des données chiffrées, ça reste des chiffres qui sont énormes. On parle souvent aussi de femmes, parce que c'est une maladie gynécologique, mais j'insiste sur le fait qu'on parle, nous, en tant qu'association bretonne, de personnes menstruées. On inclut vraiment tout le monde dans notre association et... voilà. Bien que les symptômes soient multiples, il y en a quand même certains qui se recoupent selon les patientes et les personnes atteintes de la maladie. On en retrouve certains traits caractéristiques par personne, puisque c'est une maladie qui va dépendre évidemment de la personne qui est concernée, de la personne malade. Mais les symptômes qui sont souvent retrouvés et recoupés sur tous les cas d'endométriose, ce sont donc des règles douloureuses qui empêchent de vivre normalement. Dès lors où les règles vont nous empêcher de nous lever, d'aller au travail, à l'école, d'aller boire un verre avec des amis, d'aller au cinéma, de mener en fait une vie normalement et de vivre nos rêves, enfin notre vie classiquement, il faut qu'il y ait un signal d'alerte. Il faut qu'on soit pris en charge, il faut qu'on voit quelqu'un. C'est peut-être pas forcément l'endométriose, ce que je souhaite à tout le monde, mais il faut quand même pas rester avec son mal, il faut pas s'isoler, il faut vraiment en parler autour de soi. Donc voilà, je voulais lister quelques symptômes récurrents. Donc des règles abondantes, des douleurs dans le dos, le bas du ventre, puisque les lésions sont localisées à ces endroits-là de manière principale. Une baisse de libido, de la fatigue liée à la fatigue chronique, parce que quand on a des règles abondantes, on a forcément des anémies, on a des carences. Clairement, on se lève le matin, on est déjà fatigué de sa journée qui n'a pas encore commencé. Et il y a aussi tout ce qui concerne la prise et la perte de poids, notamment par la prise de contraceptifs hormonaux qui vont venir faire le yo-yo en fait, aux personnes atteintes par la maladie. Alors, je vous parle d'endométriose et d'adénomyose, mais concrètement, c'est où ? C'est quoi ? Hop. Alors, j'ai pris mon plus beau crayon pour vous montrer tout ça. On parle d'endométriose lorsque les lésions sont situées en fait à l'extérieur de ce bel utérus que l'on voit ici. Donc, toutes les lésions qui sont sur les trompes, sur les ovaires ici, à l'extérieur là-haut, on parle d'endométriose. On vient parler d'adénomyose lorsque les lésions sont situées à l'intérieur ici du muscle utérin. L'adénomyose est une forme d'endométriose, mais c'est vrai que les spécialistes ont tendance à distinguer les deux, parce que les symptômes ne sont pas les mêmes et les conséquences sur la vie des femmes ne sont pas les mêmes non plus. Alors pourquoi ça fait mal ? Je vous ai fait aussi un beau petit schéma. Donc l'utérus est ici et habituellement, lorsque l'on a nos règles, la gravité fait son effet. Ça va suivre le schéma, s'écouler par le vagin et voilà, on aura simplement nos règles. Quand on a de l'endométriose et ou de l'adénomyose, les cellules qui sont greffées à des endroits où elles ne devraient pas l'être, bien que ce ne soit pas de l'endomètre, vont réagir comme telles. C'est-à-dire qu'elles vont saigner et vouloir s'écouler. Or, quand on est sur des localisations telles que le rectum, la vessie ou les intestins plus haut, il n'y a pas de porte de sortie pour ces saignements. C'est-à-dire que le sang va venir coaguler, former des nodules, des adhérences, et du coup les organes qui seront atteints vont être comme bloqués dans le corps et ne pourront plus bouger normalement. C'est ce qui va être très douloureux, parce que ce n'est pas normal d'avoir du sang en dehors des cavités prévues à cet effet, on va dire, par la nature. Alors, c'est une maladie qui est impactante, qui fait mal, mais il faut savoir la diagnostiquer et la prendre en charge. Alors, il y a différents acteurs médicaux. Le médecin traitant, parce que c'est le médecin qu'on va voir en premier lieu pour un peu tout, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais pour les certificats médicaux, quand on a nos allergies, là en ce moment c'est un peu fréquent avec le pollen et compagnie. Enfin, le médecin traitant, c'est vraiment le référent de santé principal quand on est un citoyen. Donc c'est lui qu'on va voir en premier lieu. Il y a l'infirmier et l'infirmière scolaire. J'ai mis scolaire entre parenthèses, que c'est une maladie qui peut toucher le public très très jeune, puisque ça se déclenche à peu près au moment des règles. Le gynécologue, c'est le spécialiste de toute cette zone pelvienne. Et la sage-femme, qui est également un acteur ou une actrice, qui va venir accompagner les personnes sur leur diagnostic. Le diagnostic passe par plusieurs étapes. Donc déjà, dans la discussion, on va verbaliser. J'ai mal à tel endroit. Qu'est-ce qui se passe? À quel moment j'ai mal? Pendant les rapports? En dehors de mes règles? Pendant mes règles? À quelle fréquence j'ai mal? Est-ce que vraiment ça m'impacte beaucoup? On va vraiment venir poser des questions multiples pour évaluer comment impacte la maladie sur la vie de la personne. Dans un premier lieu, on va faire une échographie endovaginale. C'est une échographie en interne. On va venir en fait insérer une sorte de caméra pour venir voir comment se comporte l'utérus, s'il y a des kystes, tout ce genre de choses, directement, entre guillemets, sur place. S'il n'y a rien à l'échographie, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'endométriose. J'insiste là-dessus. Dans un second lieu, le praticien est censé, également j'insiste, pratiquer une IRM, donc une imagerie par résonance magnétique. Ça consiste à venir baliser la zone pelvienne pour voir exactement ce qui s'y passe, par couche en fait. Le balisage pelvien dont je vous parle varie d'un établissement de santé à l'autre. Je vais vous parler de l'hôpital de Brest parce que c'est celui que je connais et que je pratique. Donc l'IRM qui est réalisée sur Brest est réalisée donc à l'hôpital Morvan. Et dans un premier lieu, il faut baliser donc la zone pelvienne par le biais de deux lavements par normacol. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très très agréable à faire, qui est un peu dégradant. Dans un second temps, le jour de l'examen, en arrivant à l'hôpital, on va faire ce qu'on appelle une piqûre de glucagène. Le glucagène, c'est un produit qui va venir empêcher les intestins de bouger dans le ventre et qui va donner des symptômes comme le mal de mer. Donc on est vraiment malade en fait avec cette piqûre. Et ensuite, on continue. Le balisage se poursuit par l'insertion de gel d'échographie dans le vagin et dans le rectum. Voilà, donc c'est un examen qui est pas douloureux en soi, mais qui est dégradant et les personnes peuvent se sentir rapidement vulnérables en fait pendant cet examen. Et la dernière étape, on va dire, s'il n'y a rien à l'IRM, c'est la chirurgie exploratrice, qui doit vraiment être réalisée aussi par un spécialiste de la maladie, dans le sens où beaucoup de médecins ne savent pas aujourd'hui comment appréhender la maladie, et il faut vraiment se faire suivre par quelqu'un de spécialisé, parce que les dégâts peuvent être vraiment irréversibles quand on parle de chirurgie d'endométriose. Notamment, on a des connaissances, nous, sur l'association, de personnes aujourd'hui qui ont des stomies à vie. Donc les stomies, ce sont des poches, quand il y a une résection en fait, de l'intestin, dans lequel vont venir les selles, et cette personne a 26 ans aujourd'hui et aura une stomie pour toute sa vie, parce que son chirurgien s'est vendu, entre guillemets, comme étant spécialisé, et aujourd'hui, cette personne se retrouve en incapacité de travailler, et une grande perte de confiance en soi, évidemment, de ce fait-là. Les symptômes sont équivoques, je pense quand même, je vous en ai listé quelques-uns. Il faut quand même 7 ans pour diagnostiquer la maladie. Le délai est variable, et bien évidemment, il peut tendre vers un délai bien plus long quand les acteurs rencontrés pendant le parcours médical ne sont pas informés, ou quand on est sur un secteur un petit peu, où il n'y a pas forcément la connaissance et où il n'y a pas forcément de médecin non plus pour venir diagnostiquer la personne. Alors les impacts évidemment sur la vie sont nombreux. Sur la vie personnelle et intime, sortir faire la fête quand on a la fatigue chronique, c'est un peu compliqué. Manger dehors, ça devient aussi des questions parce que est-ce qu'il y aura du monde? Est-ce qu'il y a des toilettes? Ce genre de questionnements sont vraiment importants et stressants quand on est atteint de cette pathologie. Également la question des rapports sexuels, puisque y a de fortes douleurs quand on a l'endométriose. C'est compliqué parfois d'avoir une vie sexuelle normale et épanouie quand on a cette pathologie. La vie professionnelle et scolaire également est impactée, puisqu'il y a de l'absentéisme qui est récurrent. Du fait des douleurs, on ne peut pas se lever, on ne peut pas aller au travail. Et on se retrouve souvent face à des collègues qui ne comprennent pas, parce que quand on n'est pas là, c'est eux qui ont la charge du travail qui se répercute, et du coup on se retrouve totalement isolé et pointé du doigt par des collègues de travail qui, bien souvent, malheureusement, n'ont pas trop de bienveillance, on va dire, face à cette problématique d'absentéisme. Alors, les traitements. Vu que c'est une maladie quand même qui touche énormément de personnes aujourd'hui dans le monde, on pourrait se dire qu'il y a quand même quelque chose qui est prévu pour toutes ces personnes qui vivent un quotidien douloureux et compliqué. Et l'OMS nous le rappelle très bien que non. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement de remède contre l'endométriose. Tout traitement, c'est visé généralement à contrôler les symptômes. C'est un peu comme, on dirait, la grippe, en fait. Il n'y a pas de médicament vraiment contre la grippe, à proprement parler. Vous allez prendre du Doliprane et ce genre de choses-là pour atténuer les symptômes. L'endométriose, c'est pareil. On parle même, d'ailleurs, entre nous, malades, de solutions pansements. Donc, les solutions classiques, donc là, un contraceptif en continu, une pilule ou la ménopause artificielle, donc pilule prise tous les jours pendant des années, il n'y a plus de pause en fait, on n'a plus de cycle. Ménopause artificielle, c'est par voie d'injection, on va injecter à la femme des hormones pour qu'elle n'ait plus du tout ses règles, voilà. Il y a également les anti-inflammatoires pour pallier aux douleurs. Le suivi en centre antidouleur, ça j'insiste aussi que soit pour l'endométriose ou toute autre pathologie, au bout de 6 mois de douleur chronique, vous pouvez prétendre un suivi en centre antidouleur. Sur Brest, le centre antidouleur est situé au CHU de la Cavale-Blanche. Et dans certains cas, on propose également la chirurgie à des personnes atteintes d'endométriose. Mais ça aussi, c'est limite. Limite que je vous expose juste après, pour les contraceptifs, les effets secondaires qu'on connaît aujourd'hui sur certains contraceptifs, notamment les pilules, tout ce qui est méningiome, cancer du sein, cancer de l'utérus, viendrait effectivement de ces contraceptifs. Les spottings, c'est quand on prend un contraceptif en continu, mais que le corps se rebelle un petit peu et dit « bah non, moi j'ai envie d'avoir mes règles », donc du coup, des fois il y a des saignements pendant 2, 3, 6, 8 mois, et c'est très très difficile à gérer quand on a de l'endométriose, parce que ça fait extrêmement mal. Les anti-inflammatoires, il y a également une accoutumance qui peut être rencontrée chez certains patients, et surtout l'automédicamentation. Parce que quand on va voir son médecin une fois par mois pour qu'il nous prescrive la même chose, au final on devient nous-mêmes un peu docteur, et peut-être qu'on surdose certaines choses, peut-être qu'on prend des traitements qui ne nous conviennent plus, mais en tout cas on prend des décisions tout seul, et ça peut avoir des dérives malheureusement avec des conséquences assez graves. Les suivis en centre antidouleur, les délais sont extrêmement longs. Ça peut être un frein également à ce choix-là. Et la chirurgie, dans certains cas toujours, il y a des risques de récidive, parce que c'est une maladie donc cellulaire, donc forcément il y a des risques que les cellules se redéveloppent à un moment donné. Alors là, je vais plus vous parler de mon parcours maintenant qu'on a posé un peu le contexte. Donc je vais vous parler de ma vie, moi, en tant que malade de cette maladie. Donc... Je vais juste me présenter peut-être un petit peu plus. Je m'appelle Solène Géanin, j'ai 24 ans, donc j'habite sur Dirinon, comme je vous l'ai dit. Je suis assistante administrative à la faculté de Brest. Je suis paxée depuis bientôt 3 ans. Je fais de l'escalade et de la course à pied. Mais en plus, j'ai de l'endométriose. J'aime pas me présenter que par ça, parce que je ne suis pas que malade, je suis beaucoup d'autres choses. J'ai aussi un chat. Et voilà, je suis pas que malade, je suis tout ça et d'autres choses. J'ai beaucoup d'autres qualités. Et voilà. Donc mes premiers symptômes, donc moi je suis née en 1999, donc en 2011 j'ai 12 ans, je suis en 5e au lycée Liroise à Brest, et tout de suite des règles hyper abondantes, douloureuses, des rectorragies, donc ça c'est quand on saigne à la selle, rectocolite hémorragique, qui d'ailleurs ne m'ont pas quitté depuis, hein, c'est mon quotidien, et c'était vraiment terrible, des nausées, des vomissements, des anémies du fait des saignements trop importants et de la douleur, des douleurs chroniques pendant évidemment plus de 6 mois, et neuropathique. Mes nerfs étaient tellement à vif que j'avais des douleurs dans le dos, dans les jambes, dans les épaules. Enfin, c'était vraiment terrible à vivre. Et une fatigue chronique très très lourde. Ça a eu quelques impacts quand même, notamment de l'isolement dans ma vie sociale et professionnelle. Puisque quand on a 15 ans, 16 ans, et que on voit toutes ses copines sortir, aller en soirée, et on se dit « non, je peux pas, je suis trop fatiguée ». Au bout d'un moment, vous venez plus 3 fois, la 4e, c'est bon, on se passera de vous. Et les dyspareunies, ce sont les douleurs durant et après un rapport sexuel. C'est-à-dire que quand on commence à avoir une vie sexuelle, on en parle avec les copines, ce qui est normal. Et puis, c'est un âge où on se compare un petit peu quand même aux autres. Et je me rendais compte que j'étais totalement à côté de la plaque, en fait. Et je me suis dit, mince, mais je suis pas normale. Et c'est une idée qui m'a poursuivie pendant très très longtemps. Et c'est là-dessus, en fait, que j'ai construit ma sexualité. Évidemment, j'ai rencontré des acteurs que je vous ai présentés tout à l'heure, je les ai moi-même pratiqués, donc mon médecin traitant, l'infirmière scolaire, les gynécologues, le médecin de la douleur. Moi, j'ai rencontré un pédiatre médecin de la douleur, parce que j'étais mineure, et j'ai aussi vu un psychologue. Une psychologue, pour le coup. Alors, j'ai recensé les perles que j'ai pu entendre, et que je pense beaucoup de malades ont pu entendre toute leur vie de malade avant d'avoir le diagnostic. Alors, médecin traitant, c'est dans votre tête parce que vous êtes jeune. Je vois pas trop le rapport, même encore aujourd'hui, mais à cette époque-là, j'étais convaincue que j'allais vers un mieux à un moment donné. J'attendais de grandir, en fait, pour que ma vie aille mieux à ce niveau-là. L'infirmière scolaire, alors c'est vrai que c'est un peu un cliché des infirmiers scolaires. Je suis désolée, il y a des infirmiers, je sais, dans l'assemblée, mais excusez-moi, mais prends un space-fond, un doliprane, va t'allonger. Malheureusement, ça ne guérit pas l'endométriose encore aujourd'hui. Et le gynécologue, pour les douleurs sexuelles, c'est parce que j'étais douillette. Voilà, c'était pas le problème, c'était moi, du coup. Donc pareil, on a 16, 17 ans, les premiers rapports, les premiers copains, on entend ça, et on se construit là-dessus. Et c'est pas chouette. Et puis c'est pas normal en tant que médecin de dire ça à quelqu'un. On n'a pas à juger de la douleur de quelqu'un. Enfin, mon gynécologue n'était pas avec moi dans ces moments intimes, donc non. Le médecin de la douleur, du coup, a un peu abdiqué au bout d'un moment, après avoir eu des antidépresseurs pour les douleurs neuropathiques. Donc à ce moment-là, je n'étais vraiment pas diagnostiquée du tout. On m'avait jamais parlé d'endométriose, c'est important de le savoir. Le médecin de la douleur m'a dit « on va vous mettre sous kétamine, ça va régler le problème ». Donc la kétamine, c'est quand même une drogue. Et le psy, voilà, ça c'est vraiment c'est ma petite perle préférée, c'est que j'étais en crise d'adolescence. Voilà. Je passerai le commentaire là-dessus. Donc vous l'aurez compris, c'était un véritable parcours du combattant. J'ai une petite frise chronologique, on me reconnaît bien là-dessus d'ailleurs. En 2011, donc, ce sont mes premières règles et les premiers symptômes qui viennent avec. En 2014, j'ai 15 ans, premier rendez-vous chez le gynécologue, parce que je dis à ma mère, c'est bon, j'en ai marre, quoi. Prendre une pilule peut-être pour stabiliser les cycles, je sais pas. Enfin, et ma maman étant secrétaire, pas non plus médecin, elle se retrouve aussi démunie en tant que maman. Et elle me voit juste avoir mal en fait tous les mois et elle veut m'aider en tant que parent. Donc février 2015, j'ai 16 ans, première cure de kétamine au CHU à Morvan. Pendant une semaine, j'étais sous perfusion du coup, avec de la kétamine non-stop. En juillet 2017, moi quand je vois toutes mes copines et mes copains fêter leur bac, moi je suis encore sous kétamine. Bon, j'ai eu mon bac d'ailleurs, c'est un peu ma fierté, j'ai eu mon baccalauréat avec mention, avec 300 heures d'absence en terminale. Donc voilà, seconde cure de kétamine. En parallèle de ça, je vois beaucoup de gynécologues, je change de pilule, j'en prends d'autres parce que le problème, ce serait la pilule qui ne me conviendrait pas, etc. Ok, c'est eux qui ont fait des études, c'est pas moi. Moi j'ai 18 ans, donc je les crois en fait. Et en 2019, j'en ai marre. Je suis en deuxième année de BTS à l'IFAC, à Brest, toujours. Je décide d'aller retourner voir encore un gynécologue. Donc là, j'ai 20 ans, et là, pour la première fois, on m'écoute. Et on me dit, non, mais vous allez faire une IRM. On ne m'avait jamais proposé cet examen médical-là jusque présent. Je fais mon IRM sur Brest, au CHU à Morvan. On me dit que je n'ai pas d'endométriose. Pourtant, j'en ai tous les symptômes. Je dis, c'est pas grave, tant mieux, j'ai pas d'endométriose, c'est quand même positif, parce que j'ai pas ça. Mais j'ai peut-être autre chose, mais au moins, j'ai pas ça. Mais en septembre 2019, je vais faire le même IRM sur Paris, et là, on me diagnostique une endométriose profonde. C'est-à-dire que j'ai l'endométriose jusqu'au niveau intestinal, dans la vessie, au niveau des ligaments utérosacrés. J'ai également de l'adénomyose, j'ai l'endométriose jusque sur les ovaires, et j'aurai de grandes difficultés à avoir un enfant aujourd'hui, je le sais. Donc, voilà. Et là, il y a eu quand même de grosses conséquences pour moi, sur mon quotidien. Déjà, j'ai eu une perte de confiance énorme en moi. Est-ce que j'étais légitime à avoir mal? Est-ce que ce que je disais, c'était vrai? Parce que est-ce que je suis malade ou pas? J'en savais rien du tout. J'ai normalisé la douleur pendant très longtemps. Je me suis isolée aussi parce que pour moi, c'était les médecins qui avaient raison et moi, je ne connaissais pas mon propre corps. Et surtout, j'ai perdu confiance en le personnel médical. Qui dit vrai? Qui écoutait? Qu'est-ce que je fais maintenant? Et ça a été très très compliqué. Le quotidien avec la maladie, il ne s'est pas arrangé parce que quand on a de l'endométriose, on n'en guérit pas. Donc j'ai des rectocolites hémorragiques tous les jours. Je prends un contraceptif en continu depuis mon adolescence. J'ai des questionnements lourds sur la fertilité. Est-ce que j'arriverai à avoir des enfants? Peut-être pas. J'ai un suivi médical très régulier. Et j'ai des proches experts en endométriose. Alors, il y a des infirmiers, peut-être des médecins, je ne sais pas, dans l'assemblée. Je pense que ma mère, elle vous explose en termes de suivi médical, parce que franchement, elle est devenue experte. Elle est devenue experte. Mon compagnon, c'est pareil. Enfin, franchement, ils sont au top, hein, pour ouvrir un hôpital à l'occasion. Alors, les solutions que moi, à titre perso, là, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment moi. Ce que je vais vous présenter là ne va pas forcément convenir à toutes et tous. C'est vraiment moi, Solène GN1, qui utilise ces traitements-là. Donc ça, c'est ce que je peux prendre sur une semaine quand ça va. Donc on est sur de l'antadis, sur du kétoprofène, du doliprane. Le space-fond, c'est plus pour la forme parce que c'est joli, parce qu'en soi, ça n'a strictement aucun effet. Et le vogalène, parce que les douleurs sont telles que des fois, j'en vomis, en fait, tellement j'ai mal. Mais les médicaments, ça a ses limites. J'ai pas envie non plus d'en prendre toute ma vie. Quand j'étais plus jeune, j'ai commencé à développer une accoutumance au tramadol. Aujourd'hui, j'ai plus le droit d'en prendre. Donc, j'ai pas non plus envie de repartir dans ce schéma-là, parce que c'est pas très sympa d'être addict à un médicament aujourd'hui. Donc, j'ai essayé de mettre des choses en place. L'ostéopathie, l'alimentation et la chaleur. L'ostéopathe va venir du coup débloquer certaines tensions au niveau surtout des lombaires qui sont très douloureux chez moi du fait de mes atteintes. L'alimentation, notamment l'alimentation anti-inflammatoire, en fait, si vous voulez, faut essayer. Ce sont vraiment des techniques qui sont propres à chaque personne, qui vont très bien fonctionner chez moi, mais pas forcément chez vous. L'alimentation anti-inflammatoire, ça consiste à venir manger des produits peut-être plus locaux, plus bio, moins transformés, pour vraiment permettre au corps de se débarrasser, entre guillemets, tout ce qui est perturbateur endocrinien. Et la chaleur, dans mon cas, c'est quelque chose qui marche bien. Tout ce qui sont les bouillottes et ce genre de choses, sur moi, ça fonctionne. Et une autre personne va vous dire, moi, c'est le froid, c'est plus les poches de glace. Chacun, en fait, doit adapter à son cas. Alors, les dérives que j'ai pu connaître, les accoutumances aux médicaments, dont je vous en ai parlé, notamment sur le tramadol, l'automédicamentation. Malheureusement, je pratique également, parce que je ne vais pas aller voir mon médecin dès que j'ai mal au ventre, parce que sinon, autant qu'ils prennent une chambre chez moi, ça ira plus vite, parce que sinon, ce serait terrible pour les autres patients qui voudraient le rencontrer. Et croire les recettes miracles. Alors ça, c'est pas moi, mais je voulais quand même vous faire un petit pop-up là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux notamment qui vont venir vous voir en vous disant hey, au fait, moi j'ai un traitement incroyable, moyennant 3 000 euros, je te soigne de l'endométriose. Et malheureusement, quand on est dans une démarche de vouloir se faire diagnostiquer, quand on a de l'errance médicale, quand on se sent seul, on a tendance à croire ces recettes miracles-là et on se retrouve face à des personnes encore plus démunies que ce qu'elles étaient déjà. Heureusement, il y a quand même des gens honnêtes dans ce bas monde, notamment le site Deuxième Avis et MapPato, que nous, on conseille énormément en tant qu'association. Donc le site Deuxième Avis, c'est un site internet, je vous en ai beaucoup parlé ce matin pour ceux qui sont venus me voir. C'est une plateforme qui va vous permettre d'envoyer vos examens médicaux à des spécialistes de la maladie basés dans de grandes villes. À titre personnel, j'envoie une fois par an mon IRM à un spécialiste parisien radiologue pour qu'il puisse lire en fait mes images et voir comment évolue la maladie. MapPato, c'est un site internet qui recense différentes pathologies et différents spécialistes par secteur, par ville en fait. Et là, je vous ai fait une petite troisième partie sur mon combat contre l'endométriose, ce que j'en ai fait. Moi, je suis grande sœur de 3 petites filles qui sont âgées de 13 à 4 ans et d'un petit garçon qui a 10 ans aujourd'hui. Ils sont déjà très sensibilisés, bon, celle de 4 ans un petit peu moins, mais ils sont déjà très très sensibilisés. Mais en fait, je ne veux pas qu'ils connaissent ce que moi j'ai connu. Pareil, vous avez peut-être des enfants, des tantes, des mères, je veux que jamais personne ne connaisse ce que moi j'ai connu. C'est pas normal aujourd'hui de prendre de la kétamine avant même d'avoir une IRM. C'est vraiment quelque chose qui est totalement insensé. Du coup, avec une amie, on a créé la structure Bretagne Endométriose en novembre dernier. Après que moi j'ai passé quelques années au sein d'une structure nationale, j'ai décidé de créer quelque chose de plus local, qui réponde vraiment à des besoins des acteurs que je rencontrais au quotidien, notamment vous, les structures que vous portez et représentez aujourd'hui. Donc l'engagement associatif m'a permis de découvrir la gestion de projet, la participation à des conventions, des contacts avec les collectivités locales, l'organisation d'événements, la sensibilisation dans la presse et l'intervention auprès de scolaires. Je vous ai mis quelques petites photos de ce qu'on a fait déjà en ce mois de mars. Alors on a été invité par l'association Agora AES, donc une association sur la fac à Brest, pour parler d'endométriose. Et on a eu des échanges hyper intéressants avec des étudiants qui n'étaient pas forcément sensibilisés à la pathologie. Et c'est toujours très très intéressant en fait de pouvoir discuter avec eux, en fait, tout simplement. On a co-organisé les Femmes Assures, donc c'est une soirée qui est organisée par Climb Up au Capucin, la salle d'escalade. La première édition est brestoise et ça a été repris partout en France. Je suis fière de dire ça, c'est qu'en Bretagne, on a lancé un truc qui a été repris sur Paris, donc c'est quand même pas mal. J'ai oublié quelques villes, mais voilà, on a vraiment insufflé un truc et maintenant c'est repris partout et c'est repris tous les ans de façon pérenne. Et les personnes sont demandeuses en fait de cet événement-là parce que ça permet à des associations féministes de se rencontrer. La dernière action à laquelle on a participé, c'est l'échelle de la couleur. Donc, c'était de mettre en lumière par l'art des douleurs invisibles. Voilà. C'est une maman et sa fille sur Quimper qui ont créé ce projet-là. Et ça permet en fait de mettre en lumière les douleurs que moi je ressens aujourd'hui. Elles ont également fait d'autres portraits sur d'autres pathologies et je vous invite vraiment à aller voir leur travail parce que c'est formidable ce qu'elles font et c'est des personnes vraiment, vraiment extra. Alors je vous propose de passer peut-être au temps d'échange, aux questions. Je ne sais pas si vous avez tous ramené vos petits papiers, mais en tout cas, je tenais à vous remercier de tout cœur pour votre attention. Et puis, voilà.
Merci Solène. Là, on a une question sur la pathologie. Peut-elle survenir à tout moment de la vie ?
Oui. La pathologie, en général, c'est vrai qu'on en parle à partir de la puberté, puisqu'elle est quand même très très liée aux règles. Mais certaines personnes vont avoir une endométriose asymptomatique et le découvrir beaucoup plus tard, notamment lorsqu'elles voudront avoir un enfant. C'est-à-dire qu'elles vont avoir leurs règles de manière tout à fait normale, vivre avec tout à fait normalement, mais c'est au moment de la question de la fertilité que va se poser la question de l'endométriose.
Où en est la recherche scientifique sur le sujet ?
Alors, je ne vais pas dire au point mort, parce que ce serait quelqu'un de négatif que je ne suis pas, mais presque. Il y a des fondations qui ont vu le jour, la Fondation de recherche contre l'endométriose notamment, donc qui recense plusieurs médecins. C'est un projet qui est porté par des associations nationales. Elles ont mis en place un test salivaire parce qu'il y aurait un gène qui serait un facteur en fait, de déclencher la maladie. Ce n'est pas fiable à 100%, donc il faut quand même prendre les choses avec un peu de recul. Et sinon, il y a une deuxième structure qui a vu jour tout récemment, c'est Endogalaxy, qui reprend du coup différentes patientes et associations de patientes pour la recherche contre l'endométriose. De prévenir, non, puisque quand on l'a, on l'a pour toute la vie, on n'en guérit pas. Par contre, il est possible d'accompagner et d'apporter toujours une oreille attentive aux personnes qui en font la demande. Nous, structure, on est là pour ça. Vous, acteurs, vous êtes là pour ça aussi. Et c'est un travail conjoint qu'on doit faire aujourd'hui pour accompagner au mieux les personnes qui en font la demande.
Alors, pour continuer sur la notion de travail conjoint, il y a une question autour de travail partenarial que tu peux faire avec l'association. Est-ce que vous êtes en travail avec le réseau Endobraise ? Et si oui, est-ce que tu peux nous en parler et nous dire ce que tu en penses ?
Alors le réseau Endobraise, moi j'ai participé lorsque j'étais sous chapeau national de Endomind. C'est un réseau du coup breton qui a vu le jour l'an dernier et qui reprend des médecins de Rennes et de Brest pour proposer en fait un suivi global aux personnes atteintes d'endométriose, un suivi gynécologique, en nutrition, enfin vraiment un suivi large. Je suis sortie de ça du coup lorsque j'ai créé la structure Bretagne Endométriose, puisqu'on n'a pas du tout nous été intégrés à ce partenariat-là, ce que je trouve dommage, puisque on est la seule structure qui agit vraiment en Bretagne, sur toute la région bretonne. Aujourd'hui, par exemple, on est la seule structure qui parle d'endométriose sur le Finistère. Il n'y a plus de bénévoles d'associations nationales. mais EndoBraise, je n'ai pas d'avis personnel à apporter, mais voilà, c'est une structure qui est sous érige nationale, ce que je trouve à titre un peu dommage quand même.